Content d'être là ce matin. Pour ma part, c'est le cas. Donc, ça, c'est déjà un bon début, voilà, de vous revoir. Même si ce week-end, j'ai fait un peu des allers-retours là depuis mercredi, des allers-retours vu qu'il y a aussi parfois des événements un petit peu complexes et compliqués qui peuvent se passer. Mais voilà, on est là et on est content d'être avec vous, avec Rebecca, toutes ces fois. Aussi. Ça va dans la lecture de la Bible avec le petit canevas, enfin voilà le petit plan, je cherchais le terme. Ce suivi dans les Corinthiens, c'est fort, hein. Bon, on va prendre un texte des Corinthiens ce matin. Donc ça sera tiré du texte que vous avez peut-être lu le 1er août. Quand même fête nationale, donc un bon texte, sur 2 Corinthiens 1. Alors, on ne va pas le lire tout de suite, mais dans un petit moment, comme ça vous savez, on ne va pas lire non plus tout le chapitre, mais une partie, et je pense que ce que Tatiana a dit, ce qui était vécu aussi dans ce temps de louange, va aussi dans ce sens-là, c'est Dieu au milieu des épreuves ou de la faiblesse, ou de la tempête, mais je choisirai ce matin Dieu au milieu des épreuves pour ce texte, pour ce thème aussi. 2 Corinthiens, c'est vraiment une lettre à part. Alors, on est bientôt à la fin de la lecture de 2 Corinthiens, mais c'est quand même une lettre à part dans le Nouveau Testament. Elle se distingue par sa forme personnelle. Il y a vraiment quelque chose de personnel où l'apôtre Paul a une profondeur, une théologie centrée sur la puissance de Dieu, la puissance de Dieu dans la faiblesse. C'est Paul finalement qui fait, pourrait dire, presque l'éloge de la faiblesse, ou la faiblesse humaine, et surtout la puissance de Dieu. C'est un guide précieux pour tous ceux qui sont engagés dans le service pour Dieu finalement, parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours être au top, toujours être à fond, toujours être grand, fort et musclé. Puis parfois, on n'est pas toujours au top de notre force. Et Paul va le dire dans cette lettre aussi. C'est un guide précieux pour tous ceux qui sont engagés justement dans ce service. Elle appelle à ne pas s'appuyer sur nos propres forces, mais vraiment sur la grâce de Dieu. Finalement, tout vient de Dieu. Et Corinthe, c'était une ville portuaire stratégique de la Grèce antique, prospère sur le plan commercial, il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient, mais tristement célèbre pour son immoralité. Il y avait plein de choses qui se passaient, on pourrait dire, c'est Bienne ou c'est Berne, c'est Zurich, enfin c'est chez nous. Il y avait de la prospérité, mais en même temps, pas mal de choses pas très ragoûtantes qui s'y passaient. Et c'est là que Paul va fonder aussi une église. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il va y rester pendant 8 mois. Alors, on voit ce petit épisode dans Actes 18, 1 à 18. C'est assez intéressant de se poser la question, des fois, sur la durée. Nous, on lit Actes 18, 1 à 18, c'est juste quelques versets. Puis on se dit, c'est vite fait, bien fait. Non, il est quand même resté pendant 8 mois dans cette ville. Et en 8 mois, il a réussi à fonder une église. C'est pas mal, hein ? Chapeau. Et cette communauté a été pour Paul une source permanente de préoccupation. Franchement, on le voit au travers de ses lettres. Et c'était compliqué pour les réponses aussi qu'il va apporter à leurs nombreux défis qui ont traversé aussi les siècles. Je crois qu'on y trouve des solutions pour l'église d'aujourd'hui, l'église de Bienne, l'église de Yverdon, l'église d'un peu partout, quoi. L'église en Suisse, tout simplement. Il y avait des divisions, de l'orgueil, des fausses doctrines, de l'immoralité, une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Je parle dans l'église, hein. Dans l'église, il y avait ces choses. Ce n'était pas dans la ville, je ne parle pas dans la ville de Bienne, mais dans l'église, c'est comme si Paul s'adressait à l'église. Il y avait ces choses-là dans l'église. Et c'était assez compliqué. Vous êtes dans la lecture, tout comme moi, de ces lettres aux Corinthiens. Et le thème principal de cette lettre, la deuxième aux Corinthiens, c'est la puissance dans la faiblesse. Et il y a un verset clé, 2 Corinthiens 12, 9, il va dire « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul était dans un état de faiblesse Et la réponse qu'il reçoit de Dieu, c'est « ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Nous, on a l'impression qu'il faut être toujours par nous-mêmes, avec notre connaissance, avec notre façon peut-être d'élever la voix, il y a des choses qui vont se passer dans le monde spirituel. Non. Paul, il reçoit « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse ». Paul dissimule pas ses faiblesses, il les met en avant. Pourquoi ? Parce que c'est précisément là que Dieu manifeste sa puissance. Quand on sait, on dit « oui, mais ça je sais, j'ai déjà entendu, je sais faire, je sais prêcher, je sais ». Quand on y va en disant même « préparer un temps de louange, préparer une prédication », on pourrait dire après tant d'années où on prêche, mais on sait. Et puis finalement, on y va avec « on sait ». Alors peut-être qu'on fait rire l'auditoire, peut-être que vous aurez passé un bon moment, mais spirituellement, ça sera fade. Vous serez sortis très heureux, très contents, c'était dynamique, parce qu'on sait. Mais spirituellement, ben justement, quand on y va avec « on sait », quand on y va avec « on peut », quand on y va avec ben, « on amuse peut-être la galerie, mais il ne se passe pas grand-chose ». Et Paul va dire ben, « quand je suis raplapla, râler pâquerette », enfin, je ne sais pas s'il y a des pâquerettes là-bas, mais enfin, ben, c'est là que Dieu peut agir. Parce qu'il ne compte plus juste sur sa connaissance. Vous savez aussi toutes les études qu'il avait faites. Hein, il dit qu'il avait été aussi élevé au pied de Gamaliel. Enfin voilà, c'était la meilleure unie du coin sur le moment. Et malgré ça, quand il est au fond, eh bien, c'est là que Dieu agit. Et ce message traverse tout l'épître. C'est pas par notre capacité, mais c'est notre dépendance à Christ qui rend notre service fructueux. On peut apprendre mille et un trucs. Et aujourd'hui, on se forme pour tout, hein. Il y a des cours, des séminaires, des choses où on doit apprendre, et c'est très bon. Mais l'onction, ça ne s'apprend pas. Ça se reçoit. 2 Corinthiens, c'est une lettre née dans la douleur, mais inspirée. Paul avait sans doute aucune idée de l'impact futur de ces lettres adressées à l'église de Corinthe. Son but, c'était d'apporter du réconfort, des conseils à une communauté divisée, mais troublée. Imagine une église divisée et troublée. Finalement, ça ne va pas très loin. Après une première lettre rédigée dans la douleur et les larmes, on voit ça, il reçoit par Tite des nouvelles encourageantes, mais apprend aussi que certains contestent son autorité d'apôtre. Et ils ne sont pas tellement en odeur de sainteté avec Paul parce que il leur dit des fois des vérités qui dérangent. Il leur écrit donc à nouveau, soulagé mais préoccupé. Cette lettre déborde de sincérité. Elle offre un enseignement riche pour ceux qui cherchent à mieux connaître Dieu et aussi sa volonté pour l'Église. Frères et sœurs, je voudrais vous apporter ce matin quelque chose. Peut-être vous ouvrez mon cœur un petit peu. Combien parmi nous traversent des moments difficiles, parfois ? Parfois, qui ici connaît pas la souffrance, la détresse, l'angoisse ? Peut-être ce matin, certains sont venus avec un cœur chargé, en portant un fardeau invisible pour nous, parce qu'on ne lit pas dans les cœurs, mais bien réel. Peut-être même qu'il y a un joli sourire sur ton visage, mais ton cœur, il dit autre chose. Tu as peut-être même prié, « Seigneur, mais tu es où ? Tu es où dans ce fardeau ? Tu es où dans ce souci ?» Ça fait tant d'années que je m'appuie, que j'aimerais que les choses changent. Écoutez bien, Dieu est le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. C'est ce qu'on va voir. Et il veut nous parler aujourd'hui, non pas pour nous expliquer la douleur en disant « mais c'est à cause de ceci », mais pour nous consoler, nous fortifier et nous faire aussi porter la consolation aux autres. Pas pour expliquer « c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause… » Non. Mais c'est pour nous faire de nous des porteurs de consolation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1 à 11, eh bien, Paul nous livre 3 clés pour traverser l'épreuve avec foi, et on va les voir ce matin. Dieu est la source de tout réconfort. Deuxième chose qu'on verra ce matin, c'est que Dieu transforme notre douleur en bénédiction pour les autres. Est-ce qu'on croit qu'on peut recevoir la consolation dans le but d'en consoler d'autres ? Waouh ! C'est ce qu'on lira juste maintenant. L'épreuve aussi, troisième point, nous pousse à une foi plus profonde. Dieu permet parfois l'épreuve pour approfondir notre foi. Moi, j'ai des fois entendu dire, oui, mais tu as telle épreuve, c'est parce que Dieu veut te parler, ou il y a du péché dans ta vie, ou autre. Non, parfois, Dieu veut juste approfondir notre foi, pour que ça soit du solide. Parce que c'est facile d'avoir la foi quand tout roule, quand tout baigne, quand le compte en banque se remplit naturellement et progressivement. Mais quand c'est l'inverse, c'est plus difficile de conserver la foi quand il y a des difficultés. On va lire ce texte, hein, de Corinthiens 1, 1 à 11. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » Donc déjà, Paul, il pose le topo, hein, dans ce premier verset. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc déjà, vous voyez que les gens, ils contestaient son autorité. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Donc voilà, si on conteste des fois notre autorité, ça me soulage, parce que même Paul, eh bien, on lui a contesté son autorité. Donc voilà. Mais Paul, il va, c'est un peu gonflé quand même. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Si aujourd'hui on dirait ça, on dirait, mais il se prend pour qui celui-là ? Bon, on va continuer le texte, je le commenterai tout à l'heure. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. » Qui veut servir Dieu ? C'est Paul qui dit qu'il désespérait même de rester en vie. Hein ? C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans ce texte, en tout cas. Verset 9. « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. » Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. Premier point que j'ai dit que je traiterai avec ensemble ce matin, c'est que Dieu est la source de tout réconfort. Versets 3 et 4. Paul commence par cette déclaration incroyable au verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Le terme utilisé en grec, c'est paraklésis. Il nous réconforte. Le terme utilisé, c'est parakaleo. Même si vous, on reconnaît, hein, c'est le même terme. Au niveau répétition, c'est pas mal pour un prof de français, je sais pas, voilà. Il nous réconforte, parakaleo, dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter, parakalain, ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement. Alors là, en français, ils ont mis encouragement, mais c'est aussi paraklésis, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Quatre fois dans ces deux versets, il y a le mot paraklé, consolateur. Ça nous fait penser au Saint-Esprit, hein, le paraklé. Consolation, assistance, encouragement. Paul ne dit pas ça assis sur une plage, un cocktail à la main. Je ne sais pas si ça vous est arrivé pendant cet été. Voilà, mais il est éprouvé, affligé, persécuté, et pourtant il bénit Dieu. C'est là que c'est fort. Quand tout va bien, c'est facile, mais il dit voilà, qu'il a reçu ce réconfort et qu'on reçoit ce réconfort dans le but de réconforter. Seigneur, tu es bon même si je ne comprends pas. Tu es mon réconfort. Est-ce que vous pensez que dans ce que vous vivez, vous pouvez recevoir le réconfort, mais aussi dans le but d'être un canal de réconfort pour d'autres? Vous le savez, on l'a dit et redit, enfin voilà, ça fait partie de notre vie. Rebecca était malade pendant une dizaine d'années, enfin 10 ans. La polyarthrite rhumatoïde, maintenant ça fait 10 ans qu'elle est guérie. Et je peux dire, c'est vrai, Dieu nous réconforte. Dieu ne promet pas une vie sans larmes. Et je pense que quand il y a de la maladie, des choses qu'on ne comprend pas, où on se torture les ménages, pour quelles raisons ? Ceci ou cela, on se dit, mais quel est encore peut-être le péché dans ma vie ou d'autres choses ? C'est dur, hein ? C'est dur. Et je peux dire que oui, Dieu essuie nos larmes. Il est ce Père qui, quand l'enfant tombe, court le relever. Imaginez quand Pierre a marché sur l'eau. Jésus y a tendu la main pour le sortir. Il n'y a pas dit « Bien fait, cool encore plus !» Il nous tend, il est ce berger qui porte l'agneau blessé sur ses épaules et on peut s'appuyer sur lui, il ne nous abandonne pas. Il est ce paraclet. Ce paraclet qu'on trouve dans l'évangile de Jean, présenté à merveille, qu'on a aussi lu. Jean 14, 16 à 17, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est ce même mot. Paraclet, le consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et qu'il sera en vous. Le consolateur, ce n'est pas juste ce paraclet qu'on a lu dans 2 Corinthiens 1, qui est à l'extérieur de nous, mais il est en nous. Le Saint-Esprit, lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit dans notre vie, lorsqu'on invite Dieu dans notre vie, ce paraclet est en nous, il est déjà en nous. Il n'y a pas besoin de le chercher à l'extérieur, il peut être en nous parce qu'on est appelé à être ce temple du Saint-Esprit. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit, le paraclet. » C'est le même mot, le paraclet. Jean 15, quand sera venu le paraclet ou le consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. C'est Jésus juste avant qui monte, parce que les disciples, ils n'avaient pas envie qu'il parte. Car si je ne pars pas, le paraclet, le consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et un dernier verset, il y en a d'autres, vous pouvez chercher avec n'importe quelle concordance, hein, Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Un avocat, c'est le paraclet. Nous avons un paraclet auprès du Père. Un consolateur. Jésus est aussi ce paraclet. Et il est auprès du Père pour nous. Donc, premier point, Dieu est la source de tout réconfort. Jésus est cette source de tout réconfort. Et dans le but aussi qu'on soit, parce que le Saint-Esprit, le paraclet en nous, eh bien aussi une source de réconfort pour ceux qui sont autour de nous. Vous n'êtes pas au culte que pour vous ce matin. Vous êtes au culte pour entendre qu'il y a une puissance qui veut agir dans vos cœurs pour que vous puissiez aussi apporter du réconfort autour de vous. Deuxième point, Dieu transforme notre douleur en bénédiction. C'est les versets 4 à 7. Paul dit que Dieu nous réconforte afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. En fait, si on est réconforté, c'est même pas pour nous. C'est pour que nous, on puisse en réconforter d'autres. Ça, c'est dingue comme verset, je me dis. Frères et sœurs, vos cicatrices ne sont pas des marques de honte. C'est des témoignages vivants de la fidélité de Dieu. Et il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'on puisse réconforter ce qui se trouve dans la détresse. Parce que tu es passé par là, tu peux dire que Dieu restaure. Ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Vous savez, des yakas, des faux que, C'est facile à dire. Ton épreuve peut devenir ton ministère. Et ce que tu vis aujourd'hui peut devenir la clé pour bénir quelqu'un d'autre. Dieu gaspille aucune larme. Chaque souffrance traversée avec lui a un outil dans sa main. Et Paul bénit Dieu comme le Père de la compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous console dans nos épreuves afin qu'on puisse en consoler d'autres. Les souffrances ne sont pas vaines, elles nous rapprochent de Christ et nous permettent de mieux comprendre ceux qui souffrent. Vous savez, j'ai organisé pendant une dizaine d'années, non pas une dizaine d'années, pendant 14 ans, des rencontres jeunesse à Vevey. Il y avait entre 180 et une centaine de jeunes qui venaient une fois par mois, c'était une fois par mois, et puis on avait, voilà, c'était interjeunes. Et ça, c'était à peu près 10 rencontres par année, donc une fois par mois, sauf juillet, août, enfin tout ça. Et on invitait, on faisait des concerts, enfin des trucs, on invitait des orateurs un peu d'ailleurs. Et une fois, ben, j'ai invité un orateur, je dirais pas le nom, mais c'était quelqu'un qui a écrit des bouquins, qui a été très méprisant aussi par rapport à la délivrance, parce que tout baignait. Et si quelqu'un n'était pas guéri, pas, ben, en fait, ben, il le ramassait, quoi. C'est parce qu'il manquait de foi, parce qu'il ne priait pas bien, parce que ceci, parce que c'est dans cette tendance de la guérison, enfin de la... Et cet homme a été complètement brisé. C'est aussi pour ça que je l'avais invité, parce qu'il avait un témoignage intéressant. Dans son orgueil, il a été complètement brisé et à deux doigts de mourir, ou peut-être même qu'un doigt de mourir. Et c'est vraiment in extremis aussi où il s'était repenti vraiment de son orgueil et de son mépris aussi des autres. Voilà, et qu'il a été guéri. Il a complètement changé de son fusil d'épaule, ou je ne sais pas comment dire, son message, où il s'est rendu compte que même si on est un grand ministère invité partout dans le monde, tout peut basculer du jour au lendemain. Et voilà. Dans Corinthiens 6, 19, 20, il est dit « Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui est aussi appelé le Paraclet. Et c'est pour ça qu'on peut être consolé, parce que le Saint-Esprit est appelé à être bienvenu tous les jours dans nos vies. Et on peut l'attrister par des attitudes, par des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et troisième chose que j'aimerais relever, Dieu permet l'épreuve parfois pour approfondir notre foi. L'épreuve nous pousse, dit autrement, à une foi plus profonde. Paul partage son expérience de détresse extrême en Asie, au point de désespérer même de vivre. On a lu le texte. Il apprend à ne pas se confier en lui-même, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Imaginez si Paul n'avait pas vécu toutes ces détresses, il aurait pu être méprisant par rapport à ceux qui étaient dans la détresse. Mais Paul savait que ce n'était pas par lui que Dieu agissait. Ce n'était pas par sa haute spiritualité. Dieu l'a délivré et il a confiance qu'il continuera de le faire avec le soutien même des prières des Corinthiens. En verset 8, il dit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Ouais. » Ensuite, il dit quelque chose d'extraordinaire. « Nous avons accepté notre arrêt de mort, verset 9, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. » Donc là aussi, mes frères et sœurs, je vous invite à placer votre confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Il est possible dans ces textes que Paul fasse référence à l'ensemble des épreuves qu'il a vécues en Asie, qu'on a lues aussi dans les lectures bibliques. La persécution à Lystre, où Paul a même été lapidé et laissé pour mort. Vous pouvez relire, c'est dans Actes 14. Il a été laissé pour mort, mais... Je ne sais pas s'il est ressuscité ou s'il n'est pas vraiment mort, mais en tout cas, lapidé, il n'y en a pas beaucoup qui en ressortaient vivants. Il a subi l'opposition croissante des Juifs, comme il va dire dans Actes 19, et des magiciens aussi. Et eu l'émeute provoquée par Démétrius, aussi à Éphèse, dans Actes 19, le complot des Juifs, dans Actes 20. Dans tous les cas, sa vie était en danger à plusieurs reprises. Paul va en donner une liste assez terrible, vous l'avez lu vendredi, j'espère. Oui ? Non, on n'est pas là pour... c'est pas des devoirs, c'est un plaisir d'être au contact de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, 23 à 33 nous dit « Ils sont serviteurs de Christ parce que les gens, ils méprisaient les super apôtres. » Il parle des super apôtres. Il dit « Ils sont serviteurs de Christ. » Pardon. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. Il y a les super apôtres pour qui tout baigne, ils sont forts. Puis Paul, il dit « Voilà, c'est ces super apôtres, mais moi, je le suis plus encore. » Puis là, il va faire l'éloge de tous ses succès, hein. Le nombre de baptêmes qu'il y a eu, le nombre de personnes qui se sont converties. Ah non, pardon. J'ai bien plus connu les travaux pénibles. Oh, Seigneur, engage-en un autre. Hein. Infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens, parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Qui veut de la vie de l'apôtre Paul? Honnêtement, moi pas. Honnêtement. Et il veut que les Corinthiens soient au courant pour mieux comprendre ses souffrances. Il parle des super apôtres et en même temps, lui, il parle de tout ce qu'il a subi. On pourrait dire, mais c'est un échec ta vie. C'est un échec. Je pense qu'aujourd'hui, sur un flyer, ça ne ferait pas trop envie. Hein. Comme réussite, il y a mieux. Et pour que les gens comprennent mieux ses souffrances, priez pour lui, même il demande qu'on prie pour lui et qu'on participe à sa délivrance par leur prière. Peut-être que nous aussi, toi aussi, tu as été à bout, tu as dit « j'y arriverai pas ». Peut-être été hospitalisé, tu as tout perdu. Là, il y a un peu plus qu'une semaine, on a un participant de l'Église qui a choisi de mettre fin à ses jours à Martigny. C'est dramatique, c'est juste horrible. Certains sont peut-être dans cette issue-là. Dieu ne veut pas qu'on aille dans cette issue-là. Ce n'est pas la solution. Et Paul était désespéré même de vivre, il a vécu toutes ces choses-là. Et je pense que si on a reçu aussi cette délivrance, on peut aussi soutenir ceux qui passent par des souffrances. Et ce qui est tragique souvent, c'est que les gens qui vont dans cet extrême, ils ne vont jamais dire qu'ils vont aller faire ça. En principe, ceux qui disent qu'ils vont faire, ils ne le feront pas. Mais ça, c'est les statistiques. Bref, mais ça... Soyons sensibles les uns aux autres. Il y a assez de guerre, assez de brinque dans ce monde sans en rajouter encore au milieu de nous. Peut-être certains se disent « mais j'ai tout perdu, j'ai tout perdu ». Mais regardez, on est encore là et Dieu nous a soutenus, Dieu nous a découvert une foi plus profonde encore au travers de l'épreuve. Une paix que le monde ne comprend pas. Et Paul ajoute que la prière de l'Église a joué un rôle. Versets 10 et 11, « Oui, nous avons lu cette espérance qu'il nous en délivrera encore et vous y contribuerez vous-même par la prière. » Moralité, au lieu de se chamailler les uns les autres, prions les uns pour les autres. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Nos prières sont puissantes, elles soulèvent les fardeaux, elles ouvrent des portes, elles libèrent la consolation de Dieu. Pas besoin de donner des conseils, sauf si la personne dans la souffrance en demande. Pas besoin, quand quelqu'un partage sa souffrance, de vous transformer en médecin. Il n'y a pas besoin. Parfois, juste un silence, une présence, un hug ou quelque chose. Juste une présence. Ce que les gens veulent... Vous savez, on aurait pu perdre 3 enfants sur les 4 qu'on a. On a perdu un petit-fils. Rebecca était malade. Moi, j'ai 12 crochets, 2 barres de métal dans la colonne. Il n'y a pas besoin de faire la leçon. On sait. Je n'ai pas besoin de médecin. Quand je vais chez le médecin, je vais vers un vrai médecin. Par contre, si je partage ma souffrance, j'ai juste besoin d'une main sur mon épaule. Juste besoin de quelqu'un pleure avec moi. La Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » C'est ça la parole de Dieu. Cette source de réconfort. Vous savez, même les amis de Job, ils étaient formidables, extraordinaires, parce qu'ils sont venus dans la présence de Job. Ils étaient là, ils étaient formidables jusqu'à ce qu'ils parlent. Formidables jusqu'à ce qu'ils parlent. Relisez cette histoire de Job. Ils étaient extraordinaires, les autres, ils ne sont pas venus, mais eux, ils sont venus. Par contre, ils ont fait l'erreur de vouloir expliquer la souffrance de Job. Et là, ils sont devenus des niais. Des nigauds. Alors ne soyons pas ces niais quand quelqu'un souffre, mais juste une présence, juste une écoute, juste une oreille, juste une prière. Alors ce matin, oui, Dieu veut nous rappeler aujourd'hui qu'il est notre réconfort, il est la source de notre réconfort. Deuxième point, qu'il veut transformer notre douleur en bénédiction pour les autres. Dieu veut nous guérir pour qu'on puisse être aussi un petit peu ces petits paraclets. On aime bien s'appeler, on est chrétien, on se réclame de Christ, mais on peut se réclamer aussi de tout Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un petit peu le réconfort. On est réconforté pour en réconforter d'autres, hein, parce que le Saint-Esprit agit en nous. Et il permet l'épreuve pour que notre foi soit du solide et pas juste de la théorie, comme j'ai dit. Quand tout va bien, c'est facile, hein. Donc, on n'est pas seul, tu n'es pas seul. Jésus veut marcher avec toi, Dieu veut marcher avec toi, le Saint-Esprit est en toi. Et il pleure avec toi, il te relève et bientôt il fera de toi un instrument de guérison aussi pour d'autres. Tu peux être. On peut être les ronchons de service ou on peut être les bénissants de service. Je ne sais pas comment ce qu'on dit, mais enfin voilà, de bénir. Bénir, c'est dire du bien. C'est juste ça, dire du bien de quelqu'un plutôt que du mal. La critique, la calomnie, des choses, même si on a l'impression d'avoir raison. D'ailleurs, la Bible dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il pardonne. Ok. C'est pas dit qu'il le critique parce qu'il a raison de se plaindre. Voilà. Alors, prions ensemble, vraiment pour... qu'on puisse vraiment assimiler que cette puissance s'accomplit dans notre faiblesse, que cet amour s'accomplit dans la faiblesse. Il n'y a pas besoin de paraître ce qu'on n'est pas. Il n'y a pas besoin, parce que Dieu sonde les cœurs. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton Église, qu'elle soit ici ou ailleurs, Seigneur. Merci pour cette lettre de Paul qui, c'est vrai, Paul pourrait avoir écrit des choses, toutes ses réussites, tout ce qui allait bien, tous ses succès, toutes les guérisons, même des résurrections. Puis là, il nous parle de toutes ses souffrances, même de son désespoir de rester en vie. Et Seigneur, il nous parle que tu es cette source du réconfort. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, ceux qui sont dans la souffrance, dans la faiblesse, qu'ils puissent trouver en toi cette source de réconfort. Et Seigneur, que tu puisses transformer leur douleur à chacune et chacun, à moi, Seigneur, aussi, lorsque j'en ai. Seigneur, afin que je puisse être aussi une source de réconfort pour d'autres. Tu nous réconfortes pour réconforter d'autres. Et Seigneur, merci, parce que parfois, eh bien, c'est vrai, même si elle fait mal, l'épreuve, eh bien, Seigneur, fortifie aussi notre foi. Seigneur, garde-nous, Seigneur, d'être méprisants, garde-nous d'être orgueilleux. Seigneur, quand tout va bien, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les réussites, merci, Seigneur, pour les victoires, merci, Seigneur, pour le pays dans lequel on vit, quelle grâce. Mais Seigneur, merci aussi parfois pour des épreuves qui nous rapprochent de toi. Garde-nous, Seigneur, d'avoir une mauvaise attitude lorsque c'est compliqué, mais qu'on puisse avoir ce réflexe de crier à toi. Seigneur, qu'on puisse être sensibles aussi les uns les autres lorsque quelqu'un va mal, Seigneur, juste pour être cette main sur une épaule, juste pour être une oreille qui va écouter, juste pour être un frère, une sœur qui va prier, Jésus. Merci pour ton Église ici, à Bienne, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Soyez bénis.